Chapitre 9. Il partirait le 13 janvier 2215, d'après le calendrier que Richard et Nicole avaient méticuleusement tenu à jour. Naturellement, cette date n'avait ici aucune signification. Le voyage vers Sirius, à une vélocité dépassant la moitié de la vitesse de la lumière, avait, par rapport à la Terre, ralenti le passage du temps dans Rama, et Richard estimait qu'à leur appareillage du point nodal, 3 ou 4 années supplémentaires devaient s'être écoulées sur leur monde d'origine. Faute de disposer d'un relevé des accélérations et des décélérations imprimées à leur vaisseau tout au long de la traversée, ils ne pouvaient effectuer un calcul précis. « Pour résumer, cela ne veut rien dire », expliqua-t-il à Nicole, peu après leur réveil. « En outre, nous nous déplacerons plus vite, ce qui dilatera encore le temps avant notre rendez-vous sur l'orbite de Mars. » Nicole n'avait jamais pleinement assimilé la théorie de la relativité et elle ne désirait pas consacrer la dernière journée qu'elle passerait avec Simone et Michael à son étude. « L'aigle doit venir nous chercher à 11 heures, » précisa-t-elle. « Nous pourrons rester tous ensemble après le petit déjeuner. » Ce repas fut détendu, presque joyeux. Mais la tension réapparut sitôt qu'ils se regroupèrent dans le séjour pour attendre l'arrivée de l'aigle. Les nouveaux mariés étaient assis sur le sofa, en face du reste de la famille. Cathy était comme toujours prolixe et sautait d'un sujet à l'autre en esquivant le thème de leur départ imminent. Elle racontait un rêve qu'elle avait fait la nuit précédente quand deux voix l'interrompirent.
« Sacrebleu, Sir John, c'est la dernière occasion qui se présente à nous et j'irai leur faire mes adieux, avec ou sans vous. Cette séparation me déchire l'âme, mon prince. Je ne me sens pas le courage d'endurer une pareille souffrance. N'avez-vous pas dit que cette fille était un ange ? Comment pourrais-je ? En ce cas, j'irai sans vous, » déclara le prince Hal.
Tous regardèrent le petit robot entrer dans le séjour. Falstaff le suivait en titubant et s'arrêtait tous les 4 ou 5 pas pour lever une flasque à ses lèvres. Hal vint se placer devant Simone.
« Dame chère à mon cœur, » fit-il en mettant un genou à terre, « les mots ne me permettent pas de vous dire à quel point votre visage souriant me manquera. Dans tout mon royaume, il n'y a pas une seule représentante du sexe faible dont la beauté égale la vôtre. Ventre bleu !» l'interrompit Falstaff en s'agenouillant à côté de son prince.
« Sir John a peut-être commis une erreur. Pourquoi partirais-je avec cet équipage disparate ?»
Il désigna Richard, Nicole et les autres.
« Alors que je pourrais rester ici, auprès de tant de grâces, et avec un vieillard pour unique rival, je me rappelle d'Oli Baudra. »
Pendant que les deux robots de 20 cm distrayaient la famille, Benji se leva et alla vers son père et sa sœur.
« Simone, »
fit-il en ne retenant ses larmes qu'avec peine.
« Tu vas me manquer. J'espère que toi et papa seraient très heureux. »
Simone se leva et alla vers lui pour le serrer contre elle.
« Oh, merci, Benji. Tu me manqueras, toi aussi. Et je penserai à toi chaque jour que Dieu fait. »
C'en fut trop pour l'enfant, qui éclata en sanglots. Son chagrin était contagieux, et Patrick grimpa sur les genoux de son père pour enfouir son visage contre sa poitrine.
« Papa ! Papa !»
Un chorégraphe n'aurait pu concevoir un plus beau ballet d'adieu. Simone, rayonnante et sereine malgré ses pleurs, fit le tour de la pièce pour étreindre tous ses proches.
« Je veux graver cet instant dans ma mémoire, » pensa Nicole.
Michael tenait Ali dans ses bras. Simone disait à Cathy qu'elle regretterait leur conversation. Pour une fois, Cathy restait muette, tant son émotion était grande. Simone retourna auprès de Michael et les nouveaux mariés s'agenouillèrent et joignirent les mains pour prier.
« Notre Père qui es aux cieux,
Nous te remercions de nous avoir offert l'affection de cette famille merveilleuse et nous t'implorons de veiller sur chacun de ses membres. Nous ignorons s'il est dans tes intentions que nous soyons un jour à nouveau réunis, mais ne nous abandonne pas, où que puissent nous conduire nos chemins, et fais, ô Seigneur, que nous finissions par tous nous retrouver en ce monde ou dans l'autre. Amen. Quelques secondes plus tard, l'aigle venait les chercher. Nicole sortit de son nouveau foyer, une modeste copie de la villa de Beauvois, et suivit l'étroite allée en direction de la gare. Elle passa devant des maisons obscures et désertes et essaya de les imaginer occupées.
Mon existence est comme un rêve, se dit-elle. Nul humain n'a dû vivre des expériences aussi extraordinaires.
Les constructions projetaient leur ombre sur le sentier, indiquant que le soleil factice arrivait au terme de sa trajectoire, loin au-dessus de sa tête.
C'est un pays des merveilles,
songea-t-elle en parcourant des yeux le village situé dans l'angle sud-est du Nouvel Éden.
L'aigle avait raison de dire que notre habitat serait impossible à différencier de la terre.
Elle pensa à ce monde éloigné de 9 années-lumière et se vit debout à côté de Janos Tabori 15 ans plus tôt, alors que le module Newton s'écartait de SOB-3.
Voilà Budapest,
avait-il dit, en désignant un point du globe miroitant visible par la baie d'observation. Nicole avait localisé Beauvois, ou tout au moins sa région, en remontant la Loire depuis son estuaire.
Ma maison est là-bas. Mon père et ma fille regardent peut-être dans notre direction.
Geneviève, pensa-t-elle, te voici devenue une jeune femme de presque 30 ans. Elle continua sa promenade le long de ce sentier. Le souvenir de sa fille aînée lui rappela un bref entretien avec l'aigle lors d'une pause pendant l'enregistrement de la vidéo.
Pourrais-je revoir Geneviève quand nous serons à proximité de la Terre?
Avait-elle demandé.
Tout dépendra de la réaction de vos semblables. Vous resterez dans Rama, même s'il faut mettre à exécution un plan d'urgence, mais votre fille fera peut-être partie des 2000 volontaires qui iront s'installer dans le Nouvel Éden. Cela s'est déjà produit.
Et Simone, la reverrai-je un jour?
Il est encore plus difficile de se prononcer, tant les impondérables sont nombreux. Je regrette, Madame Wakefield.
Une enfant restée sur Terre, une autre dans un monde extraterrestre artificiel, éloigné de près de 100 billions de kilomètres. Et moi, ailleurs. Qui sait où?
Elle souffrait de la solitude et elle s'arrêta pour regarder le parc du village. Dans le cercle délimité par des roches, il y avait un toboggan, un bac à sable, une construction en tube métallique et un manège. Sous ses pieds, les CG formaient un réseau qui serait un jour remplacé par la végétation importée de la Terre. Nicole se pencha pour regarder de plus près un des convertisseurs, un disque de 2 centimètres de diamètre parmi des milliers.
Des plantes électroniques qui transforment le gaz carbonique en oxygène pour nous permettre de vivre.
Elle s'imagina ce jardin public avec de l'herbe, des arbres et des nénuphars dans le petit étang, comme dans la maquette holographique. Elle savait que Rama regagnait le système solaire pour trouver de quoi peupler ce paradis technologique, mais elle ne pouvait se représenter ce lieu grouillant d'enfants.
Je n'ai vu que des membres de ma famille depuis près de 15 ans.
Elle repartit. Les maisons d'habitation cédèrent la place à des rangées de bâtiments où s'ouvriraient un jour de petites boutiques. Tout était vide, naturellement. Tout comme la vaste structure rectangulaire qui deviendrait un supermarché. Elle atteignit la gare, y entra et monta dans la première voiture du train en attente, derrière la conductrice qui était un biote du type Benita Garcia.
« La nuit va tomber, » dit-elle. « Dans 18 minutes, »
confirma le robot. Combien dure le trajet pour le somnarium ?
10 minutes jusqu'à la gare centrale, puis 2 minutes de marche, répondit la Benita.
Nicole le savait déjà. Elle avait simplement souhaité entendre une voix. Elle n'avait plus aucune compagnie depuis 2 jours et préférait s'adresser à un biote plutôt qu'à elle-même. Le train l'emmenait vers le centre géographique de la colonie et elle put voir en chemin le lac Shakespeare sur la gauche et les pentes du mont Olympe sur la droite. Des messages défilaient sur les écrans de la voiture pour l'informer sur les sites devant lesquels passait le train, l'heure et la distance parcourue. Richard a fait de l'excellent travail en concevant avec l'aigle ce système de transport, pensa-t-elle. Le somnarium était une extension du centre hospitalier à 200 mètres de la gare centrale. Elle descendit du train, passa devant la bibliothèque et entra dans l'hôpital. Elle le traversa et atteignit son but à l'extrémité d'un long tunnel. Les enfants et Richard dormaient dans une vaste pièce circulaire du premier étage, allongés dans des sarcophages hermétiques disposés le long du mur. Elle ne pouvait voir d'eux que leur visage derrière le petit hublot du couvercle. Conformément aux instructions de l'aigle, Nicole vérifia les données affichées sur les moniteurs. Son mari, ses filles et ses fils étaient tous en parfaite condition physique. Elle s'accorda le temps de faire une dernière inspection. Tous les paramètres se situaient dans la fourchette de tolérance et le moment était venu pour elle de s'endormir à son tour. Elle ne reverrait les siens que bien des années plus tard.
Benji, cette pause dans notre existence sera bien plus dure pour toi que pour nous. Cathy, Patrick et Ali rattraperont aisément leur retard car ils ont un esprit très vif, mais tu seras privé de la période de ta vie pendant laquelle tu aurais pu acquérir ton indépendance.
Les sarcophages étaient reliés à la paroi par des fixations évoquant du fer forgé et éloignés les uns des autres d'un mètre et demi environ. Nicole s'installerait avec Richard et Cathy du côté de la tête, Benji et Ali à ses pieds. Elle resta quelques minutes devant son mari. Il s'était couché le dernier, seulement 2 jours plus tôt. Conformément à ses souhaits, le prince Hal et Falstaff reposaient sur sa poitrine.
« Nous avons vécu 3 journées merveilleuses, mon amour »,
pensa-t-elle en le regardant. Seuls dans ce monde artificiel, ils avaient nagé et fait du ski nautique sur le lac Shakespeare, gravi le mont Olympe et fait l'amour aussi souvent qu'ils en avaient eu le désir. Ils étaient venus s'assurer chaque jour de la bonne santé des enfants et avaient consacré le reste de leur temps à explorer leur royaume. Juste avant qu'elle n'eût enclenché le système chargé de l'endormir, il lui avait dit « Tu es belle et je t'aime ». Le tour de Nicole était venu. Elle ne pouvait tergiverser plus longtemps. Elle s'allongea sur un matelas de mousse très confortable à l'intérieur de son sarcophage et abaissa tous les interrupteurs à l'exception d'un seul. Le couvercle se rabattit. Il ne lui restait qu'à commander la libération du gaz soporifique. Elle soupira. Couchée sur le dos, elle se rappela son rêve de la Belle au bois dormant et son esprit remonta le temps vers son enfance et les week-ends merveilleux passés avec son père au château du C.
C'est une façon très agréable de partir,
songea Nicole en sombrant dans une douce somnolence.
M'endormir en me disant qu'un prince charmant viendra me réveiller.